Maintenant, parlez, je vous écoute, dit le chanoine de Tolède à Lucien stupéfait. Je suis un vieux prêtre à qui vous pouvez tout dire sans danger. Vous n'avez sans doute encore mangé que votre patrimoine ou l'argent de votre maman. Vous aurez fait votre petit trou à la lune, et nous avons de l'honneur jusqu'au bout de nos jolies petites bonnes filles. Allez, confessez-vous, hardiment. Ce sera absolument comme si vous vous parliez à vous-même. Lucien se trouvait dans la situation de ce pêcheur de je ne sais quel conte arabe qui, voulant se noyer en plein océan, tombe au milieu de contrées sous-marines et y devient roi. Le prêtre espagnol paraissait si véritablement affectueux que le poète n'hésita pas à lui ouvrir son cœur. Il lui raconta donc, d'Angoulême à Ruffec, toute sa vie, en n'omettant aucune de ses fautes et finissant par le dernier désastre qu'il venait de causer. Au moment où il terminait ce récit, d'autant plus poétiquement débité que Lucien le répétait pour la troisième fois depuis 15 jours, il arrivait au point où, sur la route près de Ruffec, se trouve le domaine de la famille de Rastignac, dont le nom, la première fois qu'il le prononça, fit faire un mouvement à l'espagnol. « Voici, dit-il, d'où est parti le jeune Rastignac, qui ne me vaut certes pas et qui a eu plus de bonheur que moi, hein ?»« Oui, cette drôle de gentilhommière est la maison de son père. » Il est devenu, comme je vous le disais, l'amant de Madame de Nuchingen, la femme du fameux banquier. Moi, je me suis laissé aller à la poésie. Lui, plus habile, a donné dans le solide. Le prêtre fit arrêter sa calèche. Il voulut, par curiosité, parcourir la petite avenue qui de la route conduisait à la maison et regarda tout avec plus d'intérêt que Lucien n'en attendait d'un prêtre espagnol. Vous connaissez donc les Rastignac ? Lui demanda Lucien. « Je connais tout Paris, dit l'Espagnol en remontant dans sa voiture. Ainsi, faute de 10 ou 12 000 francs, vous alliez vous tuer. Vous êtes un enfant. Vous ne connaissez ni les hommes ni les choses. Une destinée vaut tout ce que l'homme l'estime, et vous n'évaluez votre avenir que 12 000 francs. Eh bien, je vous achèterai tout à l'heure davantage. Quant à l'emprisonnement de votre beau-frère, c'est une bêtise. Si ce cher monsieur Séchard a fait une découverte, il sera riche. Les riches n'ont jamais été mis en prison pour dette. Vous ne me paraissez pas fort en histoire. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne. L'histoire ad usum Delphini. Puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Une histoire honteuse. Laissez-moi vous raconter en trois mots une autre historiette que vous ne connaissez pas. Un ambitieux, prêtre et jeune, veut entrer aux affaires publiques. Il se fait le chien couchant du favori, le favori d'une reine. Le favori devient son bienfaiteur et lui donne le rang de ministre en lui donnant place au conseil. Un soir, un de ces hommes qui croit rendre service, « Ne rendez jamais un service qu'on ne vous demande pas », écrit au jeune ambitieux que la vie de son bienfaiteur est menacée. Le roi s'est courroucé d'avoir un maître. Demain, le favori doit être tué s'il se rend au palais. Eh bien, jeune homme, qu'auriez-vous fait en recevant cette lettre ? Je serais allé sur le champ avertir mon bienfaiteur, s'écria vivement Lucien. Vous êtes bien encore l'enfant que révèle le récit de votre existence, dit le prêtre. Notre homme s'est dit. Si le roi va jusqu'au crime, mon bienfaiteur est perdu. Je dois avoir reçu cette lettre trop tard, et il a dormi jusqu'à l'heure où l'on tuait le favori. C'est un monstre, dit Lucien qui soupçonna chez le prêtre l'intention de l'éprouver. « Il s'appelle le cardinal de Richelieu, » répondit le chanoine, « et son bienfaiteur a nom le maréchal d'Ancre. Vous voyez bien que vous ne connaissez pas votre histoire de France. N'avais-je pas raison de vous dire que l'histoire enseignée dans les collèges est une collection de dates et de faits excessivement douteuses d'abord, mais sans la moindre portée ? À quoi vous sert-il de savoir que Jeanne d'Arc a existé ? En avez-vous jamais tiré cette conclusion que, si la France avait alors accepté la dynastie angevine des Plantagenets, les deux peuples réunis auraient aujourd'hui l'empire du monde, et que les deux îles où se forgent les troubles politiques du continent seraient deux provinces françaises? Mais avez-vous étudié les moyens par lesquels les Médicis, de simples marchands, sont arrivés à être grand-ducs de Toscane? Un poète en France n'est pas tenu d'être un bénédictin, dit Lucien. Eh bien, jeune homme, ils sont devenus grands-ducs comme Richelieu devint ministre. Si vous y avez cherché dans l'histoire les causes humaines des événements, au lieu d'en apprendre par cœur les étiquettes, vous en auriez tiré les préceptes pour votre conduite. De ce que je viens de prendre au hasard dans la collection des faits vrais, résulte cette loi. Ne voyez dans les hommes et surtout dans les femmes que des instruments. mais ne le leur laissez pas voir. Adorez comme Dieu même celui qui, placé plus haut que vous, peut vous être utile, et ne le quittez pas qu'il n'ait payé très cher votre servilité. Dans le commerce du monde, soyez enfin âpre comme le juif et bas comme lui. Faites pour la puissance tout ce qu'il fait pour l'argent. Mais aussi, n'ayez pas plus de soucis de l'homme tombé que s'il n'avait jamais existé. Savez-vous pourquoi vous devez vous conduire ainsi? Vous voulez dominer le monde, n'est-ce pas? Il faut commencer par lui obéir et le bien étudier. Les savants étudient les livres. Les politiques étudient les hommes, leurs intérêts, les causes génératrices de leurs actions. Or le monde, la société, les hommes pris dans leur ensemble sont fatalistes. Ils adorent l'événement. Savez-vous pourquoi je vous fais ce petit cours d'histoire? C'est que je vous crois une ambition démesurée. Oui, mon père. Je l'ai bien vu, reprit le chanoine. Mais en ce moment, vous vous dites, ce chanoine espagnol invente des anecdotes et presse sur l'histoire pour me prouver que j'ai eu trop de vertu. Lucien se prit à sourire en voyant ses pensées si bien devinées. Eh bien, jeune homme, prenons des faits passés à l'état de banalité, dit le prêtre. Un jour, la France est à peu près conquise par les Anglais. Le roi n'a plus qu'une province. Du sein du peuple, deux êtres se dressent. Une pauvre jeune fille, cette même Jeanne d'Arc dont nous parlions, puis un bourgeois nommé Jacques Cœur. L'une donne son bras et le prestige de sa virginité, l'autre donne son or, le royaume est sauvé. Mais la fille est prise. Le roi, qui peut racheter la fille, la laisse brûler vive. Quand elle est réhéroïque bourgeois, le roi le laisse accuser de crimes capitaux par ses courtisans qui en font curé. Les dépouilles de l'innocent traqué, cerné, abattu par la justice, enrichissent 5 maisons nobles. Et le père de l'archevêque de Bourges sort du royaume pour n'y jamais revenir, sans un sou de ses biens en France, n'ayant d'autre argent à lui que celui qu'il avait confié aux Arabes, aux Sarrasins en Égypte. Vous pouvez dire encore, ces exemples sont bien vieux. Toutes ces ingratitudes ont 300 ans d'instruction publique, et les squelettes de cet âge-là sont fabuleux. Eh bien, jeune homme, croyez-vous au dernier demi-dieu de la France, à Napoléon? Il a tenu l'un de ses généraux dans sa disgrâce. Il ne l'a fait maréchal qu'à contre-cœur. Jamais il ne s'en est servi volontiers. Ce maréchal se nomme Kellermann. Savez-vous pourquoi? Kellermann a sauvé la France et le premier consul à Marengo par une charge audacieuse qui fut applaudie au milieu du sang et du feu. Il ne fut même pas question de cette charge héroïque dans le bulletin. La cause de la froideur de Napoléon pour Kellermann est aussi la cause de la disgrâce de Fouché, du prince de Talleyrand. C'est l'ingratitude du roi Charles VII, de Richelieu, l'ingratitude. Mais mon père, à supposer que vous me suiviez la vie et que vous fassiez ma fortune, dit Lucien. Vous me rendez ainsi la reconnaissance assez légère. Petit drôle, dit l'abbé souriant et prenant l'oreille de Lucien pour la lui tortiller avec une familiarité quasi royale. Si vous étiez ingrat avec moi, vous seriez alors un homme fort et je ne vous en voudrais pas. Mais vous n'en êtes pas encore là. Car simple écolier, vous avez voulu passer trop tôt maître. C'est le défaut des Français dans votre époque. Ils ont été gâtés tous par l'exemple de Napoléon. Vous donnez votre démission parce que vous ne pouvez pas obtenir l'épaulette que vous souhaitez. Mais avez-vous rapporté tous vos vouloirs, toutes vos actions à une idée? Hélas non, dit Lucien. Vous avez été ce que les Anglais appellent « inconsistent », reprit le chanoine en souriant. Qu'importe ce que j'ai été si je ne puis plus rien être, répondit Lucien. Qu'il se trouve derrière toutes vos belles qualités une force semper virens, dit le prêtre en tenant à montrer qu'il savait un peu de latin, et rien ne vous résistera dans le monde. Je vous aime assez, déjà. Lucien sourit d'un air d'incrédulité. Oui, reprit l'inconnu en répondant au sourire de Lucien. Vous m'intéressez comme si vous étiez mon fils, et je suis assez puissant pour vous parler à cœur ouvert comme vous venez de me parler. Savez-vous ce qui me plaît de vous? Vous avez fait en vous-même table rase, et vous pouvez alors entendre un cours de morale qui ne se fait nulle part. Car les hommes, rassemblés en troupes, sont encore plus hypocrites qu'ils ne le sont quand leur intérêt les oblige à jouer la comédie. Aussi passe-t-on une bonne partie de sa vie à sarcler ce qu'on a laissé pousser dans son cœur pendant son adolescence. Cette opération s'appelle « acquérir de l'expérience ». Lucien, en écoutant le prêtre, se disait « Voilà quelques vieux politiques enchantés de s'amuser en chemin ». Il se plaît à faire changer d'opinion un pauvre garçon qu'il rencontre sur le bord d'un suicide, et il va me lâcher au bout de sa plaisanterie. Mais il entend bien le paradoxe, et il me paraît tout aussi fort que Blondet ou que Lousteau. Malgré cette sage réflexion, la corruption tentée par ce diplomate sur Lucien entrait profondément dans cette âme assez disposée à la recevoir, et y faisait d'autant plus de ravages qu'elle s'appuyait sur les célèbres exemples. Pris par le charme de cette conversation cynique, Lucien se raccrochait d'autant plus volontiers à la vie qu'il s'en sentait ramené du fond de son suicide à la surface par un bras puissant. En ceci, le prêtre triomphait évidemment. Aussi, de temps en temps, avait-il accompagné ses sarcasmes historiques d'un malicieux sourire. « Si votre façon de traiter la morale ressemble à votre manière d'envisager l'histoire, » dit Lucien, « je voudrais bien savoir quel est en ce moment le mobile de votre apparente charité. » Ceci, jeune homme, est le dernier point de mon prône, et vous me permettrez de le réserver, car alors nous ne nous quitterons pas aujourd'hui, répondit-il avec la finesse d'un prêtre qui voit sa malice réussie. Eh bien, parlez-moi morale, dit Lucien qui se dit en lui-même, je vais le faire poser. La morale, jeune homme, commence à la loi, dit le prêtre. S'il ne s'agissait que de religion, les lois seraient inutiles. Les peuples religieux ont peu de lois. Au-dessus de la loi civile est la loi politique. Eh bien, voulez-vous savoir ce qui, pour un homme politique, est écrit sur le front de votre 19e siècle? Les Français ont inventé en 1793 une souveraineté populaire qui s'est terminée par un empereur absolu. Voilà pour votre histoire nationale. Quant aux mœurs, Madame Tallien et Madame de Beauharnais ont tenu la même conduite. Napoléon épouse l'une, en fait votre impératrice, et n'a jamais voulu recevoir l'autre, quoiqu'elle fût princesse. Sans culotte en 1793, Napoléon chausse la couronne de fer en 1804. Les féroces amants de l'égalité ou la mort de 1792 deviennent, dès 1806, complices d'une aristocratie légitimée par Louis XVIII. À l'étranger, l'aristocratie qui trône aujourd'hui dans son faubourg Saint-Germain a fait pis. Elle a été usurière, elle a été marchande, elle a fait des petits pâtés, elle a été cuisinière, fermière, gardeuse de moutons. En France donc, la loi politique aussi bien que la loi morale, tous et chacun ont démenti le début au point d'arrivée, leurs opinions par la conduite ou la conduite par les opinions. Il n'y a pas eu de logique, ni dans le gouvernement, ni chez les particuliers. Aussi n'avez-vous plus de morale. Aujourd'hui, chez vous, le succès est la raison suprême de toutes les actions, quelles qu'elles soient. Le fait n'est donc plus rien qu'en lui-même. Il est tout entier dans l'idée que les autres s'en forment. De là, jeune homme, à un second précepte. Ayez le beau dehors. Cachez l'envers de votre vie et présentez un endroit très brillant. La discrétion, cette devise des ambitieux, est celle de notre ordre. Faites-en la vôtre. Les grands commettent presque autant de lâcheté que les misérables, mais ils les commettent dans l'ombre et font parade de leurs vertus. Ils restent grands. Les petits déploient leurs vertus dans l'ombre, ils exposent leur misère au grand jour, ils sont méprisés. Vous avez caché vos grandeurs et vous avez laissé voir vos plaies. Vous avez eu publiquement pour maîtresse une actrice, vous avez vécu chez elle, avec elle. Vous n'étiez nullement répréhensible, chacun vous trouvait l'un et l'autre parfaitement libre. Mais vous rompiez en misère aux idées du monde et vous n'avez pas eu la considération que le monde accorde à ceux qui lui obéissent. Si vous aviez laissé Coralie à ce monsieur Camusot, si vous aviez caché vos relations avec elle, vous auriez épousé Madame de Bargeton, vous seriez préfet d'Angoulême et marquis de Rubempré. Changez de conduite. Mettez en dehors votre beauté, vos grâces, votre esprit, votre poésie. Si vous vous permettez de petites infamies, que ce soit entre quatre murs. Dès lors, vous ne serez plus coupable de faire tache sur les décorations de ce grand théâtre appelé le monde. Napoléon appelle cela « laver son linge sale en famille ». Du second précepte découle ce corollaire « tout est dans la forme ». Ceci, c'est bien ce que j'appelle la forme. Il y a des gens sans instruction qui, pressés par le besoin, prennent une somme quelconque par violence à autrui. On les nomme criminels et ils sont forcés de compter avec la justice. Un pauvre homme de génie trouve un secret dont l'exploitation équivaut à un trésor. Vous lui prêtez 3 000 francs. À l'instar de ces cointés qui se sont trouvés vos 3 000 francs entre les mains et qui vont dépouiller votre beau-frère. Vous le tourmentez de manière à vous faire céder tout ou partie du secret. Vous ne comptez qu'avec votre conscience, et votre conscience ne vous mène pas en cour d'assises. Les ennemis de l'ordre social profitent de ce contraste pour japper après la justice et se courroucer au nom du peuple, de ce qu'on envoie aux galères un voleur de nuit et de poules dans une enceinte habitée, tandis qu'on met en prison, à peine pour quelques mois, un homme qui ruine des familles. Mais ces hypocrites savent bien qu'en condamnant le voleur, les juges maintiennent la barrière entre les pauvres et les riches qui, renversée amènerait la fin de l'ordre social. Tandis que le banqueroutier, l'adroit capteur de succession, le banquier qui tue une affaire à son profit, ne produisent que des déplacements de fortune. Ainsi la société, mon fils, est forcée de distinguer pour son compte ce que je vous fais distinguer pour le vôtre. Le grand point est de s'égaler à toute la société. Napoléon, Richelieu, les Médicis s'égalèrent à leur siècle. Vous, vous vous estimez 12 000 francs. Votre société n'adore plus le vrai Dieu, mais le veau d'or. Telle est la religion de votre charte, qui ne tient plus compte en politique que de la propriété. N'est-ce pas dire à tous les sujets « Tâchez d'être riche !» Quand après avoir su trouver légalement une fortune, vous serez riche et marquis de Rubempré, vous vous permettrez le luxe de l'honneur. Vous ferez alors profession de tant de délicatesse que personne n'osera vous accuser d'en avoir jamais manqué. Si vous en manquiez toutefois en faisant fortune, ce que je ne vous conseillerai jamais, dit le prêtre en prenant la main de Lucien et la lui tapotant, que devez-vous donc mettre dans cette belle tête ? Uniquement le thème que voici. Se donner un but éclatant et cacher ses moyens d'arriver tout en cachant sa marche. Vous avez agi en enfant. Soyez homme, soyez chasseur. Mettez-vous à l'affût. Embusquez-vous dans le monde parisien. Attendez le proie et un hasard. Ne ménagez ni votre personne ni ce qu'on appelle la dignité. Car nous obéissons tous à quelque chose, à un vice, à une nécessité. Mais observez la loi suprême, le secret. Vous m'effrayez, mon père, s'écria Lucien. Ceci me semble une théorie de grande route. Vous avez raison, dit le chanoine, mais elle ne vient pas de moi. Voici comment ont raisonné les parvenus, la maison d'Autriche comme la maison de France. Vous n'avez rien, vous êtes dans la situation des Médicis, de Richelieu, de Napoléon, au début de leur ambition. Ces gens-là, mon petit, ont estimé leur avenir au prix de l'ingratitude, de la trahison et des contradictions les plus violentes. Il faut tout oser pour tout avoir. Raisonnons. Quand vous vous asseyez à une table de bouillotte, en discutez-vous les conditions ? Les règles sont là, vous les acceptez ? Allons, pensa Lucien, il connaît la bouillotte. Comment vous conduisez-vous à la bouillotte ? Dit le prêtre. Y pratiquez-vous la plus belle des vertus, la franchise ? Non seulement vous cachez votre jeu, mais encore vous tâchez de faire croire, quand vous êtes sûr de triompher, que vous allez tout perdre. Enfin, vous dissimulez, n'est-ce pas ? Vous mentez pour gagner 5 louis. Que diriez-vous d'un joueur assez généreux pour prévenir les autres qu'il a brelan carré? Eh bien, l'ambitieux qui veut lutter avec les préceptes de la vertu, dans une carrière où ses antagonistes s'en priment, est un enfant à qui les vieux politiques diraient ce que les joueurs disent à celui qui ne profite pas de ses brelans. Monsieur, ne jouez jamais à la bouillotte. Est-ce vous qui faites les règles dans le jeu de l'ambition? Pourquoi vous ai-je dit de vous égaler à la société? C'est qu'aujourd'hui, jeune homme, la société s'est insensiblement arrogé tant de droits sur les individus que l'individu se trouve obligé de combattre la société. Il n'y a plus de loi, il n'y a que des mœurs, c'est-à-dire des simagrées, toujours la forme. Lucien fit un geste d'étonnement. « Ah, mon enfant, dit le prêtre en craignant d'avoir révolté la candeur de Lucien, vous attendiez-vous à trouver l'ange Gabriel dans un abbé chargé de toutes les iniquités de la contre-diplomatie de deux rois ? Je suis l'intermédiaire entre Ferdinand VII et Louis XVIII, deux grands rois qui doivent tous deux la couronne à de profondes combinaisons. Je crois en Dieu, mais je crois bien plus en notre ordre, et notre ordre ne croit qu'au pouvoir temporel. Pour rendre le pouvoir temporel très fort, notre ordre maintient l'Église apostolique, catholique et romaine, c'est-à-dire l'ensemble des sentiments qui tiennent le peuple dans l'obéissance. Nous sommes les Templiers modernes, nous avons une doctrine. Comme le Temple, notre ordre fut brisé par les mêmes raisons. Il s'était égalé au monde. Voulez-vous être soldat ? Je serai votre capitaine. Obéissez-moi comme une femme obéit à son mari, comme un enfant obéit à sa mère. Je vous garantis qu'en moins de 3 ans, vous serez marquis de Rubempré. Vous épouserez une des plus nobles filles du faubourg Saint-Germain, et vous vous assiérez un jour sur les bancs de la pairie. En ce moment, si je ne vous avais pas amusé par ma conversation, que seriez-vous ? Un cadavre introuvable dans un profond lit de vase. Eh bien, faites un effort de poésie. » Là, Lucien regarda son protecteur avec curiosité. Le jeune homme qui se trouve assis là, dans cette calèche, à côté de l'abbé Carlos Herrera, chanoine honoraire du chapitre de Tolède, envoyé secret de Sa Majesté Ferdinand VII à Sa Majesté le Roi de France, pour lui apporter une dépêche où il lui dit peut-être « Quand vous m'aurez délivré, Faites pendre tous ceux que je caresse en ce moment. Ce jeune homme, dit l'inconnu, n'a plus rien de commun avec le poète qui vient de mourir. Je vous ai péché, je vous ai rendu la vie, et vous m'appartenez comme la créature est au créateur. Comme dans les contes de fées, l'afrite est au génie, comme l'icoglan est au sultan, comme le corps est à l'âme. Je vous maintiendrai, moi, d'une main puissante dans la voie du pouvoir, et je vous promets néanmoins une vie de plaisir, d'honneur, de fête continuelle. Jamais l'argent ne vous manquera. Vous brillerez, vous parlerez, pendant que, courbé dans la boue des fondations, j'assurerai le brillant édifice de votre fortune. J'aime le pouvoir pour le pouvoir, moi. Je serai toujours heureux de vos jouissances qui me sont interdites. Enfin, je me ferai vous. Eh bien, le jour où ce pacte d'homme à démon, d'enfant à diplomate ne vous conviendra plus, vous pourrez toujours aller chercher un petit endroit comme celui dont vous parliez pour vous noyer. Vous serez un peu plus ou un peu moins ce que vous êtes aujourd'hui, malheureux ou déshonoré. Ceci n'est pas une homélie de l'archevêque de Grenade, s'écria Lucien en voyant la calèche arrêtée à une poste. Je ne sais pas quel nom vous donner à cette instruction sommaire, mon fils, car je vous adopte et ferai de vous mon héritier. Mais c'est le code de l'ambition. Les élus de Dieu sont en petit nombre, il n'y a pas de choix. Ou il faut aller au fond du cloître, et vous y retrouverez souvent le monde en petit, ou il faut accepter ce code. Peut-être vaut-il mieux n'être pas si savant, dit Lucien en essayant de sonder l'âme de ce terrible prêtre. Comment, reprit le chanoine, après avoir joué sans connaître les règles du jeu, vous abandonnez la partie au moment où vous y devenez fort, où vous vous y présentez avec un parrain solide, et sans même avoir le désir de prendre une revanche? Comment? Vous n'éprouvez pas l'envie de monter sur le dos de ceux qui vous ont chassé de Paris? Lucien frissonna, comme si quelque instrument de bronze, un gong chinois, eût fait entendre ces terribles sons qui frappent sur les nerfs. Je ne suis qu'un humble prêtre, reprit cet homme en laissant paraître une horrible expression sur son visage cuivré par le soleil de l'Espagne. Mais si les hommes m'avaient humilié, vexé, torturé, trahi, vendu, comme vous l'avez été par les drôles dont vous m'avez parlé, je serais comme l'arabe du désert. Oui, je dévorais mon corps et mon âme à la vengeance. Je me moquerais de finir ma vie accrochée à un gibet, assis à la garrot, empalé, guillotiné comme chez vous. Mais je ne laisserai prendre ma tête qu'après avoir écrasé mes ennemis sous mes talons. Lucien gardait le silence. Il ne se sentait plus l'envie de faire poser ce prêtre. Les uns descendent d'Abel, les autres de Caïn, dit le chanoine en terminant. Moi, je suis un sang mêlé. Caïn pour mes ennemis, Abel pour mes amis, et malheur à qui réveille Caïn. Après tout, vous êtes français, je suis espagnol et de plus chanoine. Quelle nature d'arabe, se dit Lucien en examinant le protecteur que le ciel venait de lui envoyer.